Bon, eh bien, merci d'être là. Vous vous rendez compte, cette fois-ci, il y a Fabien Bellman tout seul.
Quelle chance, hein, bande de petits gourmands. Il y en a qui me regardent avec un air, mais c'est qui ce con qui parle? Oui, non, mais on va dire, oui, si, quelle belle rencontre.
Non, mais je disais surtout seul, parce que depuis le temps qu'il fait souffrir des gamins, qui sont tout seuls, il est bien temps que ce soit lui qui soit sur le grill.
Exactement. J'ai d'ailleurs rencontré des jeunes lecteurs à l'instant. Mais je t'en prie, hein, si tu me laisses parler.
Oui, bon, mais, non, mais moi j'ai envie de demander à ce moment-là comment on va faire le tour de tout ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a pas que seul, de savoir comment tu en es venu à t'intéresser à la BD. Je crois que comme obéliste, comme tout le monde, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Oui, c'est ça. Ben, alors, j'aimerais bien inventer un passé un peu différent pour éviter de me répéter, mais en gros, oui, ma famille était lectrice de bande dessinée, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, d'autant que mon père était militaire, donc on ne peut pas dire que c'était un univers qui a priori se prêtait à la bande dessinée par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir de ça. Mais il s'avère que, et je le cite dans un Spirou d'ailleurs, le régiment de mon père était abonné à Spirou, ce qui est assez bizarre, donc preuve qu'on pouvait être à la fois soldat et lire des revues plutôt antimilitaristes, parce qu'il s'avère que Spirou est quand même plutôt antimilitariste. Mais mon père écoutait aussi du Brassens, donc on va dire que ça faisait partie de cette cohérence-là. Ce qui fait qu'il y avait des BD chez moi, il y avait Astérix, Lucky Luke, les grands classiques, que j'ai été baigné par ça et que j'ai eu envie de faire ça très tôt. Simplement, j'ai fait un très long détour par une école de commerce avant d'accepter l'idée que peut-être j'avais le droit d'accomplir quelque chose qui était de l'ordre du rêve. C'est-à-dire que j'ai pas osé me lancer tout de suite parce que j'avais juste peur de me lancer et peur de ne pas avoir le talent ou le courage de faire ça.
C'est quand même assez contradictoire de penser que puisque je ne vais pas pouvoir rêver, je vais faire du marketing.
Ben oui, mais je voulais gagner de l'argent quand même. Non, mais je pense que le diplôme, c'était pour rassurer ma famille, en fait. C'était une manière de me dire, comme ça, j'aurai un diplôme. Il y avait quand même une autre logique, à vrai dire, que j'ai perdu de vue en cours de route, mais je voulais avoir un diplôme d'école de commerce pour faire des études supérieures, et ensuite, à l'époque, j'avais pensé faire un DESS des sciences du jeu et du jouet, parce que j'avais appris que ça existait, donc il fallait d'abord faire un bac plus 3, et ensuite faire ce DESS, et ça me permettait de rester dans le monde de l'imaginaire et de l'enfance. Je m'étais imaginé que j'aurais pu créer des jeux et des jouets qu'ensuite j'aurais confié à des enfants pour qu'ils se fassent leur propre dramaturgie, c'était ça le point commun. Ce que j'ai compris en cours de route, c'est qu'en fait, c'était pas du tout en passant par le marketing qu'on faisait ça. J'ai fait des stages chez Mattel, chez Playschool, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand on est dans le marketing, on est dans le marketing. C'est-à-dire qu'on va aider à vendre des jeux qui ont été créés par d'autres personnes. Donc, en fait, là, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment planté de voix. Et en sortant de l'école de commerce, je me suis enfin posé la bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et si je dois me planter, autant en faire tout de suite. Et puis ensuite, on passera à autre chose. Donc, j'ai enfin eu le courage de me lancer. Et puis, il m'a fallu 2-3 ans logé nourri par mes parents. Je les remercie au passage. Parce que là, je ressemblais vraiment au profil type de Tanguy, quoi. C'est-à-dire que j'étais le vilain petit canard qui a fait une école de commerce, mais il change de voie derrière. Donc, je ne dis pas dans le patelin, on était la réputation que j'avais. J'étais celui qui essaie de faire de la bande dessinée. Donc, ça a valu à mes parents un statut de paria pendant 2-3 ans. Et puis, quand ça a commencé à marcher d'un seul coup, revirement, c'était merveilleux. C'est comme Monte Cristo. J'ai pu me venger de tous. Alors, et à partir de là, surtout, même mes parents étaient rassurés parce qu'ils se sont dit, ah oui, donc c'était pas une lubie. Il avait raison de se lancer là-dedans. Et par contre, c'est ce qui fait que je ne me suis pas lancé dans le dessin. J'aurais bien aimé être dessinateur aussi, mais comme je n'ai pas fait d'études de dessin, bah j'ai mis ça de côté. Il s'avère que je n'ai pas de regrets, parce que fondamentalement, je suis scénariste avant tout.
Bon, ceci dit, les débuts n'ont pas été faciles non plus, puisque je crois que c'est à partir
Comment ça, les débuts n'ont pas été faciles,
mais... Oui, bien sûr.
Non, c'est vrai.
À partir d'un concours dans Spirou, tu vas envoyer plein de planches. On te demande 4 planches, t'en envoies 40.
Oui, mais ça, je savais que j'étais hors concours, hein, quand même, mais voilà, je me suis dit, bon, allez, l'occasion
et
est
puis,
bonne.
Et puis, finalement, les premières pages, ce sont des petits récits complets dans la revue Spirou, ce qu'on pouvait appeler les bouche-trous, quoi, et oui. Les sommaires, surtout, à tel point qu'il me semble que c'est vers l'an 2000 que l'on a la vie fabuleuse de Fabien Bellman, scénariste de sommaires chez Spirou.
Surtout scénariste de sommaires, ben. Voilà, hein, oui, mais le truc, en fait, c'est que Quand c'est honnêtement, moi, cette partie avec les sommaires, c'est presque un des meilleurs souvenirs de mes débuts, parce que quand on a vraiment envie d'écrire, que c'est...
C'est quoi le challenge?
C'était une passion de jeunesse d'écrire, de gagner de l'argent avec, et on me permet, dans une revue qui a énormément compté pour moi, que j'ai lu enfant, auquel mes parents étaient abonnés, de faire des jeux, de faire des sommets. On aurait dit de balayer la rédaction. Je l'aurais fait. Enfin, j'étais ravi. J'étais en train de me dire, ça y est, je suis là où j'ai envie d'être. Et je préférais très nettement être le type qui gagnait à l'époque, c'était 5000 francs. Oui, francs d'avant l'an 2000. Par mois, quand je me suis installé à Paris, j'avais donc pas des masses d'argent. Je me rappelle que j'étais vu un peu comme une espèce d'horrible parasite par un mec qui tenait un café vers Saint-Michel, parce que je venais à midi, j'achetais un café, je durais 6 heures avec en demandant souvent de l'eau, et il a fini par me repérer quand même, parce que j'y allais vraiment tous les jours. Il disait, putain, c'est le type qui fait de la BD, quoi. Mais parce que moi j'étais à Paris, et puis je gagnais ma vie avec ça, je faisais des sommaires, j'étais content.
C'est génial.
J'attendais bien entendu le moment de pouvoir placer des histoires plus importantes, mais à la limite, qu'importe, je faisais ce que j'aimais, quoi. Et c'est grâce à ce magazine que j'ai, entre autres, pu commencer à bosser avec Denis Baudard, qui est quand même, pour ceux qui connaîtraient son dessin ou pas, d'ailleurs c'est un des génies du dessin franco-belge, pour donner une petite... C'est un mec qui fait pas beaucoup d'albums, mais pour donner une petite impression de son talent, j'ai eu la chance de visiter les studios DreamWorks et de voir un peu comment fonctionnaient les dessinateurs, en fait. Et il y en a quelques-uns qui avaient dans leur bureau, dans leur atelier, des reproductions géantes des dessins de Denis Baudard. Parce que pour les gens qui aiment le dessin, c'est une légende, ce type-là. Il fait très peu d'albums. Travaillé dans Spirou et j'ai pu commencer à faire la série Green Manor avec lui pendant 3 albums. Ça, c'est des souvenirs géniaux.
Voilà, alors la série Green Manor, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'intégrale que vous pouvez trouver là en bas. Ce sont des histoires très club anglais du 19e siècle, où l'on parle de meurtre parfait, de crimes divers. Ça rappelle un petit peu Conan Doyle, qui est, je crois, cité à un moment. Il y a un toast à Conan Doyle qui est donné à un moment.
On essaie de l'assassiner dans une des histoires.
C'est ça, voilà. Ça rappelle peut-être le club des veufs noirs d'Isaac Asimov, c'est-à-dire toujours ce cercle de personnes qui se connaissent, qui échangent en bon gentleman, en bonne intelligence aussi, des histoires pour le moins macabres et sordides.
Et c'est d'ailleurs inspiré, en réalité, surtout d'une histoire courte de Stephen King, dans le roman qui s'appelle, enfin c'est pas un roman, dans le recueil qui s'appelle Différentes saisons, qui est connu, ce recueil, parce que la plupart des histoires courtes du recueil ont été adaptées au cinéma. C'est de ce recueil que vient Stand By Me, qui a donné le film du même nom, qui est un chef-d'œuvre. La ligne verte aussi, tu crois, sort de là. Il y a un élève doué qui est sur un jeune américain, un jeune enfant qui sait qu'un ancien nazi vit aux États-Unis sous une autre identité, le fait chanter, parce qu'il est lui-même fasciné par le Troisième Reich, donc c'est assez sympa. Et il doit y avoir une autre histoire encore. Non, c'est pas la ligne verte, c'est Chains of Redemption, l'évadé de Chains of, qui a été adapté avec Tom Hanks, me semble-t-il. Et il y avait une quatrième histoire dans ce recueil qui n'est pas la meilleure, mais qui évoque une espèce de club où des gens se racontent des histoires un peu sordides, un peu morbides. Et pour moi, ce club, ça ressemble assez à des lecteurs, en fait. C'est que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a envie de lire des histoires affreuses, sordides, avec des rebondissements un peu glauques, pour avoir quelques délicieux frissons, qui est d'ailleurs le nom de la première histoire.
C'est l'histoire de révisiter, oui, certains thèmes. C'est, par exemple, un des premiers, je crois, c'est comment empêcher un meurtre qui a été annoncé. Voici la personne qui va mourir à tel endroit et à telle heure. Comment l'empêcher ? Un autre, c'est se dénoncer pour empêcher le meurtre d'un serial killer qui n'existe pas du tout.
Voilà.
Se dénoncer comme en étant le serial killer en question. Il y a à chaque fois des choses qui ont l'air complètement impossibles et qui sont totalement justifiées. C'est l'exemple type des histoires à chute, quoi, hein.
Oui, puis c'est des histoires très intellectuelles, ce qui ne veut pas dire intelligent, hein, je sépare bien les deux, mais c'est des histoires
cérébrales.
Voilà, c'est des histoires cérébrales basées sur des jeux intellectuel du style comment quelqu'un va empêcher un meurtre qui arrive de telle et telle manière. C'est presque comme un jeu d'échecs, en fait, et c'est assez significatif de la façon d'écrire que j'avais au début, qui était assez je dirais presque désincarné, c'est-à-dire que les personnages n'avaient pas d'importance, c'était des rouages dans une histoire de meurtre parfait. Ce qui m'importe, c'est qui est le meurtrier, comment il va faire pour tuer, qui est l'enquêteur. Par contre, la psyché des personnages n'a pas une importance folle, même si de temps en temps je l'abordais, et c'était sans doute significatif d'un état d'esprit qui était le mien à l'époque, qui est peut-être un état d'esprit assez proche de celui de pas mal de jeunes auteurs que maintenant on appellerait geeks, mais à l'époque on ne le disait pas comme ça, mais qui vont écrire dans leur coin, en réalité pour se soustraire du monde et pas pour se confronter au monde. C'est-à-dire que moi j'écrivais pour m'évader, j'écrivais pour ne pas penser à mes problèmes, et qui plus est, j'écrivais des histoires assez morbides parce que j'étais quelqu'un de morbide et d'angoissé. Donc en fait c'était ma thérapie. Mais j'étais pas en train de parler du réel, j'étais en train de parler de mon univers imaginaire, et le récit criminel façon Conan Doyle, Sherlock Holmes, se prêtait bien à ça. Par contre, ce qu'il a fallu que j'apprenne après, c'est à donner un peu de chair à tout ça, et en particulier à mes personnages. Donc ça, ça a été vraiment le défi des années qui ont suivi.
Oui, alors à ce moment-là, une des séries qui suivra, c'est Wonder Tom. Est-ce que là, ça peut aussi participer d'une thérapie, puisqu'on est dans un univers alors complètement fantaisiste?
C'est la drogue. je sais pas si c'était de la thérapie à l'époque, mais c'était une super rencontre avec Benoît Ferroumont, un dessinateur plutôt de dessin animé, avec qui on a failli faire un long métrage, puis ça a capoté, comme malheureusement souvent dans l'audiovisuel, qui actuellement est en train d'aider à la réalisation du prochain Astérix en 3D, et qui fait la BD qui s'appelle Le Royaume, chez Dupuis. Une très belle rencontre, parce que lui voulait des choses un peu fantastiques, moi j'avais envie d'un univers comme ça, et on avait inventé une espèce de série où un Chicago des années 30, mais avec de la magie, voilà, une espèce de mix entre les deux, que j'ai adoré faire, mais qui n'a pas marché du tout, donc on s'est arrêté au bout de deux albums. Mais c'est une série que j'aimais bien.
Et alors, donc, à ce moment-là, arrive la série qui sera un succès, quoi, on peut le dire comme ça.
C'était sera prévu. Seul. Oui, c'est ça, c'est le moment, le début de Seul, à peu près. Voilà.
Où on a donc cinq personnages, Yvan, Leïla, Terry, Camille et Dodgy, surtout. Où, franchement, tu t'attaques à tous les tabous des récits pour la jeunesse, en particulier celui de la mort, qu'il ne faut pas trop évoquer. Et là, nous sommes dans un univers où, donc, si vous ne connaissez pas, enfin, ça m'étonnerait, sinon vous ne seriez pas là. Les enfants se réveillent dans une ville à peu près déserte et ils vont comprendre progressivement qu'ils sont morts. Et même, tu vas assassiner le personnage principal. Enfin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une BD.
Enfin, ça dépend. Je crois que c'est tout ce qu'il faut faire dans la littérature jeunesse de qualité. Mes modèles de littérature jeunesse sont soit des auteurs qui n'ont pas écrit pour la jeunesse, mais que j'ai lu enfant. Je pense à William Golding et Sa Majesté des Mouches, par exemple, qui est pour moi un chef-d'œuvre de littérature jeunesse, mais je ne pense pas que Golding l'ait pensé comme un livre jeunesse. On pourrait citer aussi Newark de Stephen Gould. Ça, je sais, pour en avoir discuté avec un éditeur de l'époque, qui me disait, quand Stephen Gould a écrit Newark, il ne pensait pas à des enfants. Et quand ils l'ont mis en folio junior, il l'a pris au début comme une sorte d'insulte à son intelligence, genre, mais non, c'est un roman, j'ai fait un roman, comme si on avait dit, guerre et paix, on va mettre ça en jeunesse. Sauf que pour moi, c'est pas du tout une aberration, et c'est surtout pas infamant d'être en littérature jeunesse, et Newark est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre extrêmement dur, mais qui marche très bien. Barjavel, quand il a écrit Ravage, qui est un bouquin qui m'a complètement transcendé quand j'étais ado, pour moi, c'est à lire quand on est enfant ou ado, mais c'est extrêmement violent. Si on s'en réfère à Peter Pan, par exemple, de James Berry, c'est en réalité un roman très dur. La fée clochette de Peter Pan, c'est... non, il y a des enfants dans la salle, donc je vais peut-être éviter de dire le mot qui... C'est une sacrée garce, voilà, on va dire ça comme ça. Elle est affreuse, elle essaie de tuer des enfants à un moment donné parce qu'elle est jalouse. Pinocchio, si on relit Pinocchio, il y a des moments d'une cruauté incroyable. Sauf que le problème, c'est comme La Comtesse de Ségur. J'en discutais avec quelqu'un qui adapte La Comtesse de Ségur actuellement à la télé. Et on leur demande d'enlever, bon, je ne suis pas un fan des Malheurs de Sophie, mais il y a au moins un intérêt qu'on peut trouver là-dedans, c'est que c'est du Sade pour enfants. C'est quand même une petite fille à qui il arrive des choses affreuses, elle marche dans la chaux vive, elle se fait arracher les cheveux, c'est assez abominable. Mais si on enlève ça et que c'est bien juste, les Malheurs de Sophie, c'est genre, elle a perdu son doudou, fin, c'est bon, je ne regarde pas le truc, ça n'a aucun intérêt. Le problème, en fait, c'est qu'on a tendance à revisiter les classiques en oubliant ce qui a fait leur force à l'époque, qui était souvent une force transgressive et extrêmement puissante, et juste ne garder que le succès, en disant ça a marché, et après on l'édulcore. Donc je ne fais en réalité que renouer avec cette logique de la littérature jeunesse qui consiste à ne pas prendre les lecteurs pour des idiots, et de partir du principe qu'on peut aborder tous les sujets avec un enfant, à la condition près qu'il le faut le faire d'une manière différente d'avec un adulte. On peut évoquer les mêmes sujets, mais pas de la même manière. Dans Seul, même si on peut dire que la série est violente et qu'elle est transgressive, il y a quand même des choses qu'on s'interdit de faire. Ça peut paraître fou, mais on a quand même ce degré de précaution avec Bruno. Par exemple, on n'avait pas envie de montrer des gros plans complètement gore, de cadavres, des choses comme ça. La seule fois où on a été obligé de le faire, c'est pour la mort de Dodgy. Pourquoi on l'a fait ? On a montré juste une main de Dodgy, quand même mangée par des corbeaux. Bon, mais c'est presque rien, allez. On peut nous accorder ça quand même, un enfant mort mangé par des corbeaux, c'est pas la fin du monde, pour moi.
Pourtant, la fin du monde, là, on y est presque.
Ouais, on était presque. Mais pourquoi on l'a fait ? Parce que dans l'épisode 3, il y a un moment donné où un personnage qui s'appelle Saul plonge dans un bassin où il y a un requin, et on avait pensé de bon goût et élégant de ne pas montrer cet enfant se faire dévorer vivant par le requin. Pour le coup, là, on a su se tenir. Sauf qu'on s'est rendu compte que nos lecteurs, parce que ça devait être clair qu'il était mort, Saul, mais nos lecteurs nous ont dit, oui, mais ça se trouve, Saul, il a nagé au fond de la piscine, il a ouvert une grille, il s'en est sorti. Pourquoi ? Parce qu'on est dans de la BD. Dans de la BD, tout est possible et le lecteur le sait. Donc, on s'est rendu compte que si on ne montrait pas que Doji, à son tour, était mort, on ne comprendrait pas la suite, à savoir où sont ses enfants, quel est l'univers dans lequel ils sont. Et oui, la mort n'est pas tout à fait la même. Donc, autant pour Saul, on avait opté pour l'élégance, autant pour Doji, on a quand même montré une main de Doji. On a montré qu'elle était décharnée, on a montré que les corbeaux étaient autour. Alors, ça me rappelle une anecdote assez drôle, parce que j'ai lu un forum sur BD Geste sur la question, qui était assez à mourir de rire. Parce qu'en fait, c'était beaucoup d'adultes qui parlaient de la série, d'adultes sans enfants, collectionneurs de BD, qui lisaient la série, qui disaient « Est-ce que c'est vraiment pour les enfants ?» Et ils étaient un peu choqués quand même. Et il y en a qui disaient « Moi quand même, je pourrais, j'ai pas d'enfants, mais je l'offrirai jamais à mes deux nièces, parce que quand même, à un moment donné, on voit Doji se faire manger par des corbeaux, c'est affreux et tout. Bon. » Et un des internautes essaie de lui donner des arguments en disant « Mais si des enfants le lisaient, tu pourrais leur expliquer que Doji a rejoint le grand cycle de la nature ?» J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Je dis « Oui, c'est vrai. Doji, elle s'est fait manger par des corbeaux. C'est très beau. » Non, c'est affreux en fait, mais c'est affreux, mais ça fait partie de la BD. Et ce qui est bien, c'est que j'en ai rediscuté encore récemment avec de jeunes lecteurs qui l'ont lu. Que des passages puissent leur faire peur, oui, que ça puisse les marquer, oui, mais que ce soit au point qu'ils soient traumatisés, non, et qu'ils aient pas envie de lire la suite, non. Et les fois où moi-même j'ai eu des doutes, parce qu'il peut m'arriver quand même, ça peut paraître fou, mais des fois je me pose des questions quand j'écris, à un moment donné je me dis, ah, telle scène quand même, genre, ah tiens, quand l'enfant est absorbé par une masse d'insectes énormes, grouillants, qui le font disparaître à jamais dans les ténèbres, est-ce que j'en fais un peu trop? Et quand j'ai un doute, je pose la question à Gazzotti, et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? J'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et à chaque fois, Gazzotti a à peu près la même réponse, il me dit, rappelle-toi de ton album préféré de Tintin. Alors je dis, les 7 boules de cristal. Il dit, pourquoi les 7 boules de cristal? Ah ben, Raskar Kapak, la momie qui débarque dans la chambre de Tintin avec une boule de cristal. J'étais terrorisé. Enfant, j'étais terrorisé. Et c'est mon album préféré de Tintin. Donc pourquoi? Parce qu'enfant, on veut des émotions fortes, comme adulte. On veut quelque chose qui nous marque. Donc si, sous prétexte que je suis un enfant qu'il faut protéger, on me sert de la soupe tiède, d'une part, je vais m'ennuyer en lisant les trucs qu'on me propose, et en plus, si on veut me protéger en faisant ça, on fait un contresens complet. La littérature jeunesse, comme les contes, sont là pour préparer l'enfant à ce que va être le monde réel. Or, le monde réel est infiniment plus cruel, infiniment plus dur qu'un conte ou qu'une BD. La vraie violence, et pour ceux qui auraient un doute, je propose toujours de revoir le documentaire de Claire Simon qui s'appelle Récréation. La vraie violence, c'est une cour de récré. Rappelez-vous vraiment ce qu'était une cour de récré et la manière dont ça se passait, ce ne sont que des rapports de force ultra-violents entre des enfants. Humiliation, domination, souffrance, tout ce qu'on veut. Donc commencer à dire « je veux protéger l'enfant de ça », à ce moment-là, il faut l'enlever de l'école. Mais c'est ce qui n'est pas ce que j'ai trop envie de préconiser. Moi, je préfère dire aux enfants, et c'est tout le paradoxe de la série, de son titre, ça s'appelle « Seul », pour dire aux enfants « en réalité, vous n'êtes pas tout seul à vivre ce que vous ressentez ». Quand j'étais enfant et que j'avais des insomnies sur la peur de mourir, je me disais « qu'est-ce qui m'arrivera si je meurs ? Qu'est-ce qui m'arrivera si mes parents meurent ?» Et que j'avais pas de référent qui me permettait de me dire je suis pas tout seul à penser ça, mais donc je commençais à me dire « je suis un gros malade, quoi ». Je suis en train de me dire « je suis le seul dans mon école, je suis peut-être le seul dans ma famille à avoir ces peurs-là ». Ben non. Et c'est grâce à des romanciers que je l'ai compris. Quand j'ai vu que William Golding évoque un enfant qui devient fou, c'est quand même ça, dans Sa Majesté des Mouches, il y a quand même un enfant qui parle à une tête de cochon. Tête de cochon qui pourrit en plus. Donc moi je suis hyper soft par rapport à Golding, quoi. Mais moi, enfant, j'ai lu ça, je me suis dit, mais il a trop raison ce mec.
Mais voilà, c'est écrit, là c'est dessiné.
Oui, alors c'est vrai, bon, ça c'est vrai. C'est vrai que la BD, comme c'est visuel, comme c'est montré, marque un pas supplémentaire dans l'éventuel traumatisme, et le cinéma est un pas supplémentaire. Je reconnais que mes vrais traumatismes d'enfant étaient plutôt des téléfilms que j'ai pu voir, mais des téléfilms réalistes, qui se voulaient réalistes. Mon vrai choc d'enfant, qui n'a pas été un bon choc, c'était un téléfilm passé l'après-midi que j'ai dû regarder comme ça par hasard tout seul à la maison un mercredi. C'était sur des briseurs de grève. En fait, il y avait une grève dans une usine et ils gardaient l'usine la nuit. Et un des types qui gardait l'usine la nuit se faisait choper par des briseurs de grève. Et les types lui faisaient un truc affreux. Je ne vais pas le dire parce que c'était vraiment affreux. Et c'était réaliste, entre guillemets. Et je savais que c'était vrai, que ça pouvait arriver. Et ça a été un choc. Je me suis dit, ah oui, d'accord, le monde, ça peut être ça, quoi. Ça peut être ce genre de truc horrible. Et là, c'était un peu plus dur à avaler. Dans Seul, je ne me fais quand même pas trop d'illusions sur le fait que les gamins savent que c'est une BD, c'est du dessin, c'est un monde qui n'existe pas. Par contre, on peut parler de choses qui existent. Et ça, c'est, en fait, c'est comme un vaccin. Un vaccin, c'est une toute petite proportion de mal, le virus, pour s'y habituer par la suite et lutter. La littérature jeunesse, ça doit être ça. Un vaccin qui serait juste du placebo ne marche pas. Il faut vraiment une petite dose de mal, il faut une petite dose de peur et puis d'excitation aussi. Seul, ça se veut ça. Alors, je ne dis pas que ça vaccine contre le monde, mais ça prépare un tout petit peu. Et ce que moi, j'aime bien avoir comme réaction de lecteurs, c'est des lecteurs qui en parlent entre eux, qui en parlent avec leurs parents, ou j'ai eu 2-3 échos comme ça, qui en parlent avec des psychiatres, parce que j'ai déjà eu des pédopsychiatres qui m'ont parlé de la série, et des enfants qui arrivaient en thérapie avec un album de Seul en disant « Voilà, je veux parler de ça ». Et pourquoi ils voulaient en parler? Parce qu'il était question de la mort, en fait. Ça j'étais bizarrement, agréablement surpris.
Il y a quelque chose qui est assez intéressant là-dedans, c'est que si je comprends bien, par moment, tu vas un petit peu modifier ton scénario, ou tu vas modifier la manière de raconter les choses en fonction des réactions des enfants. Donc
oui,
tu suis ça de très près quand même.
Alors pas trop près, parce que la loi l'interdit, je le rappelle. Mais oui, c'est en dédicace.
C'est pas le sens de ma question, mais
non, oui,
effectivement, vous avez... Gazzotti et toi, vous avez peut-être un blog sur Seul où il y a les enfants qui peuvent réagir sur leur interprétation de la série et qui, par moments, peuvent être émulateurs, peuvent donner une idée supplémentaire
oui,
qui permet de changer un peu le scénario.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir ces retours. Il y a des retours parce qu'il y a quand même des enfants dans mon entourage, neveux, nièces, cousins, etc. Il y a les enfants en dédicace, beaucoup. Il y a le blog, il y a la page Facebook de Seul. Alors, c'est pas évident parce qu'une dédicace, vous le savez, si vous en faites, on a quand même un mode de discussion qui est très rapide, qui est très particulier parce qu'en plus, pour avoir été moi lecteur qui vient en dédicace, qui demande la dédicace, on est souvent un peu pétrifié, on sait pas quoi dire. Ou pire, on est en train de se dire qu'est-ce que je vais dire pour que la personne se rappelle de moi pour toujours. Moi, je me rappelle, j'étais comme ça, gamin. Je vais arriver et je vais lui poser une question que personne lui a jamais posée. Et après, j'avais tellement peur, je faisais juste c'est bon, Fabien. Et donc, je pense qu'effectivement, le type se rappelle de moi toute sa vie. Ou pire, je disais, quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose? Ça, je l'ai fait un certain nombre de fois jusqu'à ce que je réalise que c'est assez gonflant, en fait, mais bon, bref. J'avais envie de marquer l'auteur qui m'avait marqué, c'est, voilà. Mais une fois qu'on arrive à juste casser la glace et de dire, allez, pourquoi t'aimes bien la série? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur? T'as quel âge? Qu'est-ce que t'aimes bien comme personnage? On apprend des trucs, quand même. Il y a aussi des rencontres en école primaire qui m'ont beaucoup appris de choses. Alors, là, j'ai une anecdote qui a été fondatrice pour moi. C'était une école à la Goutte d'Or à Paris, donc plutôt une école avec une mixité sociale forte. En réalité, sociale non, parce que c'était plutôt des enfants qui n'avaient pas beaucoup de thunes, mais mixité de type de peau totale. C'est-à-dire qu'en fait, pour être précis, il y avait des Noirs, des Maghrébins, des Asiates et aucun blanc du tout. Donc on avait vraiment la mixité totale de la Goutte d'Or. Moi, super, je trouve ça vachement intéressant parce que justement, dans Seul, il est question de ça. C'est quand même Leïla. Dont on peut présumer que ses parents sont d'origine maghrébine, il y a Doji qui est noir, etc. Donc j'y vais avec l'impression que je vais apprendre des choses. De fait, j'ai appris des choses, mais pas là où je le pensais. Moi, j'y allais en me demandant s'il fallait que je précise d'où venait, par exemple, Doji. Est-ce qu'il faut que je précise le pays d'origine de sa mère? Est-ce qu'il faut que je précise d'où viennent les parents de Leïla pour crédibiliser mon propos? Ou est-ce que c'est ça qu'attendaient les enfants? Et je sens très vite qu'ils s'en foutent. Et on fait un vote. Je leur dis, bah tiens, j'aimerais bien qu'on vote pour les personnages que vous préférez dans la série. Et donc, ils avaient droit chacun à 2 voix pour 2 personnages. Et le prof avait commencé à me préparer au fait que j'allais avoir une surprise. Alors moi, je dis, bah tiens, qu'est-ce que ça va être la surprise? Bon. Alors, assez normalement, ceux qui ont des votes assez corrects, c'était Leïla, Yvan, Terry, enfin la plupart des personnages classiques, qui avaient, disons, 6-7 voix chacun. Doji, un peu au-dessus, qui a 9 voix. Mais il y en avait un au-dessus, c'était Saul. Qui apparaît dans le tome 3, c'était à l'époque du tome 3, qui avait 14 voix sur 22 élèves. Donc 14 voix pour, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, pour un petit fasciste blond, c'est quand même un peu ça l'idée, qui adore Hitler et qui adore la Deuxième Guerre mondiale et clairement pas du côté des alliés, quoi. Et là, je vois par exemple des enfants, je les questionne un peu en disant, mais qui a voté pour... Et je vois par exemple un gamin noir, dont le personnage préféré est Saul et Doji, c'est ces deux personnages-là. Et pourquoi? J'ai fini par le comprendre, parce que ce sont les deux chefs. Sauf que c'est deux chefs très différents. Doji, c'est un chef malgré lui, et donc il doute beaucoup, et d'ailleurs il y a des enfants que ça gonflait un peu. Ils disent « Ouais, mais Doji, il se prend la tête et tout. » Et il joue au chef, voilà, ça m'a été dit comme ça, il joue au chef. Et je dis, et Saul, ah non, Saul, il est chef. Et là, j'ai eu un grand frisson dans le dos en me disant, voilà la nouvelle génération. Et d'ailleurs, au cas où je ne prends pas parti, si jamais il devait y avoir un changement politique en France, je pourrais toujours dire, ah mais moi, Saul, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce personnage, qui s'avère être un des héros de la série, et je l'ai toujours dit, Marine. Donc au cas où, maintenant, je ménage un peu la chèvre et le chou. Mais ce qui m'a fait plaisir, par contre, c'est que Saul, je le savais, allait revenir, et que c'est de fait un personnage important de la série. Et que oui, j'avais envie que Saul soit charismatique. Je voulais que ça soit un antagoniste, un méchant, mais... Le fait est que, par exemple, je me suis vraiment rendu compte, en re-questionnant des enfants, que Saul, pour pas la plupart, mais pour beaucoup d'enfants, est un des héros de la série. C'est pas un rival, c'est un héros. Ils disent, oui, ses méthodes sont un peu cheloues, mais quand même, il est fair-play. Par exemple, dans le top 3, quand il propose à Doji de prendre le pouvoir en sautant dans le bassin en requin, il lui donne une chance. Sauf que, quand on relit l'album, on se rend compte qu'il le piège. Logiquement, Saul, il se dit, Doji n'a aucune chance. Doji saute dans un bassin requin à l'endroit où le requin vient manger tous les jours à la même heure, donc c'est quand même, enfin, il n'a pas tellement de chance logiquement. Mais ça, les enfants le percevaient qu'à moitié. Ils disaient non, quand même, il lui a donné une chance, il aurait pu le tuer dans un coin.
Si il se lève plus large, c'est parce qu'au moment où il va donner l'exemple et plonger lui-même, il se saigne afin que son sang attire le requin.
Alors, et là, les risques. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui a vachement intrigué les enfants. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit comment vous voyez cette scène. Et il y en a qui disent il le fait pour montrer qu'il est encore plus courageux que Doji, et d'autres qui disent qu'il le fait pour mourir. Et c'est peut-être un peu des deux. Et moi-même, j'ai pas tellement envie de trancher cette réponse. Même chose pour une scène du tome 7, qui est très intéressante pour moi. À un moment donné, Saul embrasse Doji. Donc il lui fait genre, en gros, merci pour tout à l'heure, et il l'embrasse. Et je n'explique pas vraiment pourquoi. Et on sent qu'il se fout un peu de la gueule de Doji, c'est pas très clair. Bon, alors là-dessus, très compliqué d'avoir le retour des enfants parce que c'est une scène qui les met un peu mal à l'aise et que moi, je ne me vois pas commencer à leur dire « Tu as aimé la scène avec les deux garçons qui s'embrassent ?» Je dis « C'est normal. » Donc, je ne le fais pas. Mais donc, du coup, j'ai du mal à avoir des retours. Sauf que j'en ai eu un. C'était assez génial, dans une classe de primaire, à nouveau. À la fin de la classe, donc chacun pose des questions, blablabla, il y en a un qui fait comme ça, hyper sûr de lui. Alors, je voulais vous poser la question, pourquoi est-ce que Saul, il embrasse Doji dans le tome 7? Alors, moi, hyper content de faire enfin dans la pédagogie un peu démago. Je suis genre, alors tu comprends, des fois, quand on est jeune, on peut se poser des questions sur la sexualité. Alors, des fois, on aime les petites filles, des fois, on aime les garçons. Après, je ne juge pas. Enfin, bon, enfin, j'étais à fond dans le côté de non-débile pour que ces enfants puissent se poser des questions.
Ça se passe. La prof donne l'alerte.
Voilà, c'est là que j'ai eu des problèmes avec la police. Mais j'étais agréablement surpris en me disant, il est culotté quand même de poser la question devant tous ses copains. Donc je demande à la maîtresse, je dis, mais tiens, lui, ça doit être un des élèves populaires de la classe. Elle dit, ah non, pas du tout populaire, il parle jamais d'habitude. Et là, je commence à reconstituer le puzzle en me disant, ouh, d'accord, je vois le profil. Donc je commence à me dire, ah oui, c'était bien que je puisse t'aborder dans la BD, que je puisse peut-être créer peut-être pas une polémique, mais une discussion autour de ça. Il y a un deuxième moment là, à ça, la maîtresse, très gentille, pour marquer le coup, je propose à ses élèves de nous envoyer aux auteurs un courrier de remerciement de pourquoi on est passé. Bon, la plupart des courriers, on sentait que c'était un peu téléphoné, quoi. C'était genre « Merci, monsieur Vellman, d'être passé ». Enfin, bon, ils avaient tous fait le même courrier, quoi, parce qu'ils étaient obligés. Et je reçois une lettre de ce gamin, qui me rappelle au début. Je suis celui, rappelez-vous, monsieur Vellman, qui a posé la question sur Saul qui embrasse Doji. Et je sens qu'en réalité, c'est un gamin qui est en train de se poser un milliard de questions et qu'à la fin de l'entretien, au moins, il s'est dit « j'étais pas le seul à me poser des questions ». Et je vois qu'on peut devenir auteur de BD. Je serai moi-même auteur de BD plus tard. Donc voilà ce qui arrive aux jeunes invertis. C'est qu'au bout d'un moment, ils deviennent auteurs de bande dessinée. On refoule, on sublime. Enfin, chacun gère ça comme il peut. Mais je suis à fond dans la thématique qui m'intéresse. C'est qu'un gamin qui lise seul, à un moment donné, puisse se dire, même s'il n'en parle pas autour de lui, qu'il puisse se dire en son fort intérieur, ah d'accord, il y a au moins des auteurs, quelque part, qui se posent des questions autour de ça, donc je ne suis pas tout seul. Et ça c'est passionnant pour moi.
J'ai plusieurs questions à la fois par rapport à tout ce que tu dis. Déjà, bon, je pensais qu'au départ, Saul, s'il pouvait intéresser, c'est parce que c'est un méchant et qu'un méchant doit toujours être magnifique.
Oui, ça joue aussi.
On se souvient toujours davantage du méchant que du héros. Il faut que le méchant soit réussi. En même temps, là, on a un personnage qui est beaucoup plus ambigu que ça. Et par rapport à ça, presque, je pourrais dire que t'as une de tes dernières BD, Paco, fait écho à
l'ambiguïté.
À l'ambiguïté.
Alors, je sens quand même qu'il y a des gens que ça commence à inquiéter, des parents dans la salle qui font genre, mais à qui est-ce que je confie mes enfants quand ils lisent seuls? Ben oui, mais alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'un auteur, enfin, je trouve qu'une œuvre est intéressante quand elle s'intéresse à l'ambiguïté, aux zones d'ombre ou en tout cas grises, et que le côté manichéen, et même dans le cas de la littérature jeunesse, ne m'intéresse pas. Je lisais des gens qui... J'ai lu des articles de psychologues avec lesquels je n'étais absolument pas d'accord, qui disaient « un enfant a besoin... » Enfin, si, il y a peut-être une part de vérité, mais il disait « un enfant a besoin de grands repères noir-blanc » et expliquait ainsi une certaine littérature jeunesse où il y a le mal et l'empereur du mal et il y a les héros. Et je partage en partie ça, il faut des repères, il faut des valeurs. Et je, à certains égards, ce que j'écris peut être vu comme moraliste. Je suis prêt à entendre ça. Mais l'idée de commencer à dire, tu sais, dans la vie, il y a les gentils et les méchants, ce qui est du bon côté, vas-y Franco, ce qui est un petit peu quand même le discours d'une certaine partie du cinéma américain, me pose des vrais problèmes. Et j'ai l'impression que c'est au contraire le rôle d'un auteur de dire à des enfants qu'ils ne sont pas cons. Ben non, c'est le bien, le mal, c'est pas juste, il y a deux camps. C'est où est-ce que tu vas chercher dans ces différents camps le bien et le mal du moment, au moment de ta décision. Ça, c'est infiniment plus compliqué. Dans Paco, effectivement, c'est a priori un type débarque au bagne, il a commis un crime quand même. Et lui se vit fondamentalement en arrivant au bagne comme hétérosexuel. Et puis d'un seul coup, il se découvre lui-même surpris par le fait qu'il a une attirance pour un mec. Alors, est-ce qu'il va le qualifier d'amitié amoureuse ? Est-ce que ça sera... Souvent, j'en parle en disant que dans Paco, c'est l'histoire de deux types qui s'accrochent l'un à l'autre comme des naufragés pendant qu'un bateau coule. Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire sur le bagne, c'est des statistiques que j'avais lues comme quoi 70% des bagnards avaient une relation qu'on qualifierait d'homosexuelle. Ben, moi, ça me parle, ça, je ne peux pas empêcher de me dire, mais comment c'est possible que dans un cadre donné, on ait à ce point un renversement des valeurs des années 30 ? Parce que même si d'ailleurs, on voit que c'est des valeurs encore fortes maintenant, de pouvoir imaginer que des hommes soient ensemble et qui plus est, que ce soit accepté par l'administration pénitentiaire, qui acceptait les couples, en particulier quand il y avait par exemple un bagnard qui était changé de case, il faisait attention que s'il était en couple, sa môme ou son caïd reste avec lui, que les deux soient déplacés, il le faisait pour la paix sociale en fait. Il savait que s'il séparait un couple, il risquait d'y avoir des conflits très violents et qu'un gardien pouvait se prendre un coup de couteau. Donc ils demandaient, ils étaient prêts à accepter ça, mais ils demandaient, ça c'est assez passionnant, à ce que ce couple se déclare comme couple, enfin ils disaient peut-être pas homosexuel, mais couple d'hommes, et ils demandaient à savoir qui était actif, qui était passif. Ils le notaient dans la fiche. Et une fois qu'ils savaient ça, tout était dans l'ordre. Parce que ok, l'actif, c'est quand même un mec, donc il n'est pas vraiment homosexuel. Le passif, c'est la môme, donc il a un statut mineur. Parce que dans le milieu carcéral, et on aurait tendance à penser dans la société en général, la femme, le rôle de la femme est en réalité un statut mineur par rapport au rôle de l'homme. Et dans la population carcérale, c'est hyper fort. Le fameux coup de sonnette, qui est cette espèce de... Quand on arrive dans le bagne, on est testé. Le coup de sonnette, c'est un mec va vers vous et va vous casser la gueule. Et soit vous vous laissez faire, ou vous criez, ou vous faites non pitié, et vous avez perdu, et vous allez être la môme, la femme, ou la prostituée de la case, soit vous luttez et vous gagnez le droit de rester un homme. Donc c'est quand même un rapport de force, violent, viril, des certaines valeurs genrées masculines. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, parce qu'en plus on est en train de parler aussi de Seul, et voilà, mais j'ai les mêmes thématiques dans Seul, bien entendu, que Leïla soit d'ailleurs un des personnages préférés de plein de petites filles.
Très active.
Bah, c'est une personnalité D'accord. féminine qui prône des valeurs masculines. Si, là encore, je vais mettre beaucoup de guillemets dans ce que je dis, parce que le genre, le sexe, c'est des thématiques compliquées. Quand on va dire ça, c'est typiquement masculin ou ça, c'est typiquement féminin, tout de suite, j'ai tendance à me poser des questions. Donc, dans le cas des petites filles, moi, par exemple, dans Seul, à un moment donné, je ne peux pas empêcher de citer le fait que dans un catalogue de jouets, je continue à être hyper choqué qu'on mette partie fille, repassage, cuisine, lave-vaisselle, et puis côté garçon, mitrailleuse. Bon, déjà parce que a priori la plupart des mecs n'utiliseront pas forcément de mitrailleuse par la suite, alors qu'apprendre à repasser c'est très utile, et qu'en plus de ça je trouve ça complètement couillon, avec les pages roses, les pages bleues et tout, ça me rend dingue. Et on le voit encore dans des catalogues de jouets maintenant, je parle pas d'un truc des années 30 quoi.
Et Seul, alors, est lu aussi bien par les garçons que par les filles ?
Alors, il s'avère que c'est lu par les deux, même si je me rends compte que les parents croient que c'est plus pour les garçons. Et ça, c'est beaucoup lié aux couvertures, en fait. Comme les couvertures sont souvent un peu sanguinolentes, on montre quand même qu'il y a une certaine violence dans la série, et c'est voulu, c'est qu'on s'est toujours dit avec Bruno, on ne veut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise, on ne veut pas que des parents nous en veuillent, en offrant le truc en disant « Hey, c'est l'histoire de Oui-Oui au pays des fleurs », et puis ils voient leurs enfants revenir « Oh, oh !» et qu'ils se disent « Merde, qu'est-ce que j'ai acheté ?» Donc les couvertures sont quand même assez cash. on monte toujours, dans le premier on a quand même du sang, dans le deuxième il y a une gamine avec un flingue plus gros qu'elle, dans le quatrième il y a un enfant dégoulinant de peinture rouge, mais on peut se demander quand on lit, il y a un requin géant, enfin bref. Donc on veut être assez clair sur le fait que c'est une série un peu violente, et donc, et c'est là que c'est intéressant socialement parlant, comme c'est un peu violent, pour les parents c'est pour les garçons. Alors si pour moi, si on commence à dire que les sentiments violents sont l'apanage des garçons, on est mal barré, ou alors on ne connaît pas très bien les petites filles. Moi j'avais deux sœurs, je peux vous assurer que les sentiments violents des petites filles, je les connais bien, je les ai bien incorporés, et elles sont tout à fait capables de mettre des roustes à des petits garçons, ça il n'y a aucun doute quoi.
Je suis en train de réaliser une chose qui m'interpelle juste à ce moment-là, c'est que les couvertures sont souvent sur fond blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor, il n'y a que les personnages.
Oui, tout à fait.
Or, si j'ai bien compris à un moment, c'est que vous évitez tous les deux de traumatiser les enfants en essayant de garder dans la peinture des personnages une certaine caricature et de mettre l'aspect réaliste sur les objets. Je me souviens d'une phrase d'interview où il a dit que la gifle doit être réelle et c'est comme ça que l'on va participer à la dramatisation de l'action et non pas les personnages qui vont être un petit peu plus caricaturaux.
Alors c'est vrai que
l'absence de décor là, elle interroge sur le
pour les couvertures. On va dire que le choix pour la couverture, il est plutôt graphique. C'est que c'est une couverture avec un fond blanc et un personnage au milieu est extrêmement frappante. Elle marche bien. On avait l'exemple du Peter Pan de Cosset qui est une réussite incroyable avec un personnage sur fond de neige qui est superbe. Donc c'était plutôt dans ce sens-là aussi pour laisser une marge d'interprétation pour le gamin et dans la mesure où il y a du blanc. C'est vrai dans la narration aussi. Hein. Dieu sait qu'il y en a des blancs et des trous et des choses auxquelles je n'ai pas encore réfléchi, mais je fais croire que oui, c'est aussi pour que les enfants s'accaparent l'histoire eux-mêmes. Après, le dessin de Gattotti, c'est vrai que ce qui fait que je n'ai jamais eu le moindre doute sur le fait que ça devait être lui pour cette histoire, c'est que, pour moi, un des trucs qui fait que je n'accrochais pas toujours à des BD jeunesse, c'est que parce que c'était jeunesse, on gardait une espèce de flou artistique, les personnages pouvaient être faits sur fond de rien, avec un décor vide, enfin, ça peut être très bien dessiné, ça peut être de bon goût, c'est pas la question, mais ça manquait de réalisme, et j'avais envie pour qu'on croit à l'histoire, qu'on croit un minimum à la vraisemblance de ce qui allait se passer avec ses enfants. Et pour ça, il fallait un dessinateur capable d'une certaine forme de réalisme. Il se trouve que Gazzotti, en ayant fait du polar avant avec Soda, est un auteur capable, quand il fait une voiture, qu'on reconnaisse la voiture et la marque de la voiture. Quand il fait un flingue, c'est un vrai flingue, il peut dire c'est un Smith & Wesson 45. Et je me rends compte que les enfants sont très très sensibles à ça. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un enfant s'intéresse à ça, c'est quand il fait des maquettes. Il veut être sûr du modèle, il veut être sûr du tank qu'on a employé, etc. Il y a plein de gamins qui s'en foutent. Moi, en tant que jeune lecteur, je m'en serais foutu de la marque de la voiture, je n'aimais pas les voitures. Mais pour plein de lecteurs, ça joue, ça participe de cette crédibilité. Et quand on fait du fantastique, c'est encore plus important que tout soit crédible pour que le moment de fantastique...
Entrer dans le quotidien,
voilà.
Le plus prosaïque possible.
C'est-à-dire que plus on fait un récit extraordinaire, plus l'ordinaire doit être crédible. C'est, pour moi, c'est la base du fantastique. Et il y a souvent un malentendu là-dessus, je trouve, de la part d'une certaine forme de littérature fantastique, ce qui consiste à dire, oui, bon, c'est de l'imaginaire, donc on va faire de l'héroïque fantasy, donc on s'en fout, c'est pas crédible, il y a de la magie. C'est l'inverse. Plus on va vers la magie, plus on va vers le fantastique, plus il faut crédibiliser le reste, sinon on n'y croira pas. Beaucoup d'exégètes de la dramaturgie l'ont bien dit, ils ont dit, si dans votre univers d'héroïque fantasy, tout est possible, c'est la magie, voilà. Et à un moment donné, votre personnage, il meurt. On va se dire, c'est magique, on va trouver la pierre machin qui va faire qu'il va revivre. Donc vous êtes obligé, quand vous faites de l'heroic fantasy, d'inventer un univers encore plus clair, encore plus crédible. Nous, on a pris le point dans l'autre sens avec Seul. On s'est dit, ça va commencer comme la réalité. Donc a priori, quand on meurt, on meurt. A priori, quand il se passe ça, il se passe ça. Et après, on commence à distordre un peu. On se rend compte que non, on ne meurt pas forcément quand on meurt dans cet univers.
Sauf que c'est déjà mort.
Voilà, sauf qu'en réalité, on va se rendre compte en cours de route que si on peut remourir, dans le sens, c'est comme un jeu vidéo où on ne saurait pas combien on a de vie d'avance. Donc si jamais on remeurt, ça se trouve, on ne revient pas. Histoire quand même qu'il y a un enjeu, parce que si au bout d'un moment, les enfants peuvent mourir à l'appel. Mais en même temps, si, c'est intéressant ça quand même. Parce que justement, c'est quoi un gamin qui commence à se dire « mais je ne peux pas mourir ?» Et ça, c'est vraiment un thème qui est dans Peter Pan, qui est l'idée d'immortalité, l'idée de toute puissance, l'idée d'enfant roi. Et Saul va sans doute caractériser un peu plus cette notion-là, mais d'une manière que j'espère être passionnante. Effectivement, Saul, moi, je m'y intéresse comme un personnage crédible et avec lequel j'ai une empathie. Simplement, je mets en Saul la partie de moi dont je me méfie le plus parce que je pense que c'est la plus dangereuse. Dans tous les personnages de Seul, il y a une partie de moi. Simplement, je la pousse à l'extrême pour faire un personnage qui soit une facette de ce que je suis aussi.
mais toujours chaque fois tous ces personnages à la fois.
Oui, tout à fait.
Tu as déjà beaucoup cité Golding, Sa Majesté des Mouches. On pourrait peut-être dire aussi, je ne sais pas si tu as lu Le Seigneur des Guêpes de Ian Banks.
Ah non, pas du tout.
Bah, qui est une sorte de démarquage de ça. Il y a aussi une BD de Godard au Royaume d'Astra.
Oui, ça, on en a parlé après, effectivement.
Tu as cité Stephen King avec ça. Il y a Je suis une légende, il y a Ravage. Il y a plein de références dans la série Seul. Je pourrais encore. Ben, Nourk, c'est déjà été cité. J'ai encore relevé Malville, les histoires de slasher en général, hein, avec le maître des couteaux.
Quelqu'un nous avait dit qu'on avait fait un slasher pour enfants avec le maître des couteaux. J'étais ravi.
Il y a l'espace avec le monolithe.
Oui.
Il y a peut-être l'armée des 12 singes avec tous les animaux échappés du zoo, la planète des singes, le village des damnés, le village de Chalamayan aussi, la foire des ténèbres.
Non, surtout pas le village de Chalamayan.
Non.
Ah. Pour moi, c'est une énorme dope.
Mais l'esprit est
le même. Allez. Par contre, le village des damnés.
Oui, la foire des ténèbres.
Oui, bien sûr.
Le sixième sens et les autres aussi.
Oui, alors d'ailleurs, c'est un peu notre crainte.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de. Il y a des sources d'inspiration qui. Ratisse très large dans tous les domaines de l'imaginaire, du fantastique et de la science-fiction.
Oui, on voulait gagner notre vie et faire un best-seller, donc il fallait bien pomper là où il y avait les meilleures idées. Mais non, mais bien sûr, on fait avec. On tente de faire avec Seul ce que moi j'ai vu réussir.
C'est volontaire.
C'est volontaire. Et qui plus est, on ne se cache pas trop des. Pour le coup, on ne cache pas trop nos sources. Même si des fois, je reconnais un peu serrer les fesses quand je me dis, tiens, on va citer Kubrick. Et genre, ça fait quand même un peu le mec qui. Enfin bon, passer derrière Kubrick, c'est quand même un peu gonflé, mais c'était le monolithe qui m'intéressait. Et pour moi, l'idée d'un immeuble noir entièrement recouvert d'insectes, c'était le mix absolu entre le monolithe de Kubrick et Sa Majesté des Mouches. C'est-à-dire qu'on prend les mouches, mais on pousse le curseur à l'infini, et on se retrouve avec un objet qui d'ailleurs m'a été inspiré entre autres aussi par de l'art contemporain. Parce qu'il y a une œuvre de. Alors que je ne dise pas de conneries, d'ailleurs, je vais en dire une. C'était des tableaux faits avec des mouches mortes. Et je crois que c'est, quelqu'un va me retrouver le nom, c'est l'auteur, ce fameux auteur d'art contemporain qui a fait Le requin coupé en deux. Non, vous ne connaissez pas, c'est bon, vous n'êtes que des idiots comme moi, donc en fait je peux dire n'importe quoi. Bon, en fait j'ai inventé ça, je me suis inspiré de personne. Non mais ça va me revenir, c'est un auteur de hyper connu qui a fait aussi un crâne. Damien Hirst. Voilà, ça, voilà, c'est ce que tu voulais dire et j'ai compris ton message. Bon voilà, c'est un type qui a fait un requin coupé en deux dans du formol, il a fait des tableaux faits avec des mouches collées dessus. Et au début, vu de loin, le tableau, on a l'impression que c'est un monochrome noir. Et quand on se rapproche, on se rend compte que c'est des mouches. Et je me suis dit, ah j'ai mon idée là, c'est bon, un truc qui va bien faire flipper les gamins et qui va me faire gagner ma vie. Voilà, je pense toujours de cette manière-là, hein. C'est qu'est-ce qui va vraiment faire flipper les mômes, en avoir pour des années de psychanalyse pour les parents, merci qui, et moi derrière j'encaisse.
Bon, d'accord, mais en même temps, il y a...
D'accord. Difficile de rebondir là-dessus. Non, mais je plaisantais, Alors, mon profond respect pour l'enfance vient surtout...
C'est l'envie de reprendre aussi les vieux mythes et de les réviser.
Oui, tout à fait.
Et à un moment, tu avais dit que tu te voyais comme un passeur. Donc, pourquoi un passeur? C'est-à-dire que... toutes les BD que tu écris, c'est peut-être pour retrouver les frissons de l'enfance, de tes lectures d'enfance, de les retransmettre telles quelles, en les mettant au goût du jour, peut-être, en ajoutant peut-être une touche personnelle, c'est-à-dire que, est-ce que tu penses que vraiment tous les auteurs construisent leur univers narratif comme ça, c'est-à-dire en partant de nos lectures anciennes et en construisant là-dessus?
Oui, je crois. Enfin, moi, je crois absolument. En fait, je méfie beaucoup du romantisme de l'auteur avec un grand A et de la création et du côté ex nihilo. Je méfie beaucoup de ça parce que je trouve ça très français. Il n'y a qu'à voir la nouvelle vague et le côté auteur, genre le réalisateur qui fait tout. Et il se trouve que je suis que scénariste. Donc déjà, je peux pas être d'accord. Ça veut dire que je suis vraiment qu'un moignon d'auteur, pour reprendre une expression célèbre d'un dessinateur de BD. Mais ce n'est pas juste par amertume d'être un scénariste que je dis ça, je crois. C'est que simplement, je crois profondément que le meilleur des auteurs n'est que quelqu'un qui a digéré. Enfin, c'est ce que disent les gens qui disent on est des nains sur les épaules des géants, mais c'est vraiment ça. J'imagine que même un Stephen King, pour qui j'ai une admiration sans borne, a redigéré du Edgar Allan Poe et l'a mis à sa sauce. Et on en parlait tout à l'heure, un film comme Indiana Jones, pour moi, était la synthèse absolue de 100 films de série B à moitié réussis. Et le talent d'un Spielberg et d'un George Lucas à l'époque a été de prendre le meilleur de chacun de ces mauvais films, parce que honnêtement, souvent, ils n'étaient pas très bons. Et quand on connaît leurs références, on les voit, on dit « Ah oui, d'accord, le piège du temple, machin, c'est là, les mecs qui tombent de la falaise, c'est tel autre film, c'est souvent des vieux Tarzan, des trucs comme ça. » Ils l'ont synthétisé et c'est devenu une sorte d'œuvre jalon d'une époque. Et moi, ça a été un des grands chocs, comme les tout premiers Star Wars, des choses comme ça. À un moment donné, les auteurs... Un parallèle qu'on peut faire qui, pour moi, est parlant, c'est celui des traducteurs. Je suis toujours bluffé par le travail, un bon travail de traduction, surtout quand il s'agit de poésie. Alors là, ça devient un truc de fou. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre qui a été écrite par un auteur avec un style dans une langue donnée nous est communiquée d'une manière probante et intéressante par un traducteur? Ben, c'est un travail de recréation. Un vrai traducteur, en réalité, est un créateur. Parce qu'il va être obligé quand même de trouver d'autres mots, de raconter d'une autre manière, et quand on parle de poésie, c'est ça puissance 1000, quoi. Ben pour moi, un auteur, à certains égards, c'est un traducteur. Il va prendre des choses qu'il a aimées avant, qui étaient celles de son époque, et il va les traduire dans le langage contemporain qui est le sien au moment où il écrit. Et ça n'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que c'est pas pour dévaloriser le statut d'auteur, au contraire, c'est juste dire ça n'est que ça, mais c'est déjà un boulot. Moi, je suis très fier d'être un passeur, et j'espère être un bon passeur. Et ça veut dire simplement tu fais en sorte d'essayer de sentir l'air du temps, de synthétiser pour enlever les trucs un peu chiants. C'est Hitchcock qui disait un bon film, c'est la réalité dont on a enlevé les morceaux chiants. Mais je suis assez d'accord de ça. Pour moi, ça serait seul, c'est la littérature enfantine dont j'aurais enlevé les passages ratés de ce que j'ai aimé lire enfant. Et je propose quelque chose qui me semble être le mieux, mais qui est quand même imparfait. Et un gamin qui le lit maintenant est en train de se dire ce qui aurait été vraiment génial dans Seul, c'est si c'était passé ça. Et c'est ce manque qui va le pousser à écrire son œuvre dans 10 ans. Moi, j'aurais écrit des choses. Oui, ben voilà. J'aurais écrit des choses. Je crois qu'un auteur, c'est beaucoup quelqu'un qui est insatisfait de choses qu'il a lues. Et il se dit, ah, ça aurait été vraiment tellement bon.
Il fait sa propre histoire. Oui,
voilà. En fait, c'est ça qui poursuit l'histoire tout seul.
Sa propre lecture.
Et je suis encore capable de faire ça. Je suis encore capable d'être assez mauvais con pour dire, Gravity aurait été mieux s'il a fait comme ça. Alors que déjà, faire Gravity, c'est génial. Mais il faut une part d'arrogance quand on écrit, il faut se dire à un moment donné qu'on est meilleur que tout le monde, et après avoir l'humilité de se dire, bah voilà, après j'ai essayé de le faire, et c'est pas au point, mais heureusement que c'est pas au point, comme ça les gens vont le faire mieux derrière, et c'est sans fin.
Bon. On va essayer d'accélérer un petit peu, il y a encore plein de questions, et l'heure tourne, on va passer à Spirou, on laisse tomber seul, même si j'avais envie de demander combien d'albums encore, parce qu'il me semblait que la série devait être arrêtée. À 5 albums, et puis finalement...
Non, malheureux, avec la thune qu'on se fait,
des fois, toi.
Non, juste pour clore là-dessus, on avait prévu la possibilité que ça s'arrête tôt, si jamais la série ne marchait pas. Ce qui m'est arrivé, par exemple, sur la série IAN, le démarrage est mauvais, on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à rattraper le truc, on doit arrêter, on essaie de faire une vraie fin, qui peut être déceptive, mais qui est une vraie fin, qui permette au lecteur de se dire, j'ai une histoire complète. Le pire, c'est une histoire qui s'arrête
un robot qui a une intelligence artificielle.
Voilà, avec Ralph Meyer au dessin. Dans le cas de Seul, on s'était dit, si jamais ça démarre mal, on terminera au bout de 4-5. Ça a bien commencé, et ça a pris un rythme de croisière qui est bon. Donc on savait qu'à partir de là, on pouvait raconter l'histoire qu'on avait vraiment envie de raconter, et c'est une histoire assez longue pour de la BD, mais en remettant donc d'une vingtaine d'albums au total. Mais ça paraît long par rapport à de la BD, mais ça ne l'est pas par rapport à un roman. Vous prenez Le Seigneur des Anneaux, si on coupait en tranches d'albums de 46 pages, ça serait 500 albums. Donc on va faire une histoire qui est certes longue, mais pas plus qu'un gros roman, et qui, moi, ça c'est très satisfaisant d'avoir le succès nécessaire, parce que je ne goûte pas le succès, j'en suis ravi, mais on sait que c'est toujours très fugace. Mon vrai bonheur, outre le fait que ça me permet de gagner ma vie, c'est vrai, mais c'est de me dire on peut raconter l'histoire vraiment qu'on veut raconter, et l'histoire... On est en train d'entrer dans le vif du sujet. Là, j'ai écrit le tome 9. À la fin du tome 9, qui va clore le deuxième cycle, on va enfin révéler qu'un des enfants du groupe a un rôle différent de ce qu'on pouvait croire. Ce sera le fameux enfant minuit. Enfin, pour ceux qui connaissent la série, sinon ça fait genre « Et le schmul !» Les gens disent « Ah, dis donc, ça a l'air bien, sa série, où j'ai rien compris. » Bon, ben, voilà, il y a un enfant minuit qui est un peu l'élu du mal. On va se rendre compte que c'est un des héros. Et ça, pour moi, en termes narratifs, c'est super fort. On me dit « Ça y est, on est dans le vif de ce que je veux raconter depuis le tout début. » C'est ok, c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, fin du tome, neuf, achetez-le, pas cher, depuis, voilà.
Bon, on passe rapidement à Spirou.
Allez.
Enfin Spirou, Donc ça a commencé par les one-shots, c'est donc une série dérivée de la série classique où chaque fois ce sont des auteurs différents qui peuvent raconter une histoire de Spirou. Ils ont le droit d'être un petit peu plus adultes là-dedans. Et puis finalement, je pense que aussi bien le dessin de Johan que le scénario que tu as fait avec ça a permis d'en faire une série, de reprendre la série de base.
C'est à peu près ça. En fait, j'avais été contacté en 2002 pour éventuellement faire la reprise après Tom et Jean-Ri qui étaient en train de se dire qu'ils allaient arrêter. J'ai proposé Johan à l'époque, mais c'était une époque compliquée pour Dupuis. Il y avait beaucoup de têtes pensantes éditoriales qui n'étaient pas toutes d'accord entre elles. Et le choix de notre binôme, Velman-Johan, n'a pas fait l'unanimité. Et moi, en gros, c'était, je voulais faire avec Johan. Je croyais, je crois encore que c'était... le dessinateur idéal pour la reprise. Ça n'a pas fait...
Surtout à partir de Toto Lornutorin, peut-être que ça paraissait pas évident.
Oui, mais si on connaît son dessin, si, en fait. Enfin, bon, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, de là, ils nous ont dit, non, vous ne ferez pas la reprise. Mais par contre, on avait apporté l'idée des one-shots. C'est-à-dire que moi, en cherchant différents dessinateurs pour faire une reprise possible, il y en a qui m'avaient dit, en faire un, oui, pour le fun, mais pas reprendre la série, c'est trop lourd. Et puis, on voit que Franquin a fait une dépression, que bon, ouais, voilà. C'est vrai que c'est un peu lourd de faire que ça. Donc on avait rapporté l'idée à Dupuis en disant, vous savez qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant à l'américaine en fait. C'est que des gens fassent un seul album, et c'est un one-shot et basta. Ça a bien plu à Dupuis, ils ont lancé les one-shots, et un peu en récompense et un peu en prix de... Voilà, histoire de dire, vous faites pas vraiment la reprise, mais vous ferez le premier one-shot. Donc on a fait ça. Ça s'est plutôt pas mal passé, on a eu des bons retours. Et il se trouve qu'entre-temps, d'une part, on a fait une histoire courte dans le journal pour fêter les 70 ans du personnage. Et là, on a pris Johan a pris un dessin plus proche des origines franquiniennes, et au même moment, ils étaient en train de dire on va arrêter avec Mauro Muera. Donc, le succès du one shot, le fait que Johan soit capable de faire un dessin plus consensuel vis-à-vis du public, ils sont revenus vers nous. Ils ont dit bon, allez, on a merdé une fois, on revient. Est-ce que vous accepteriez de le faire à ce moment-là? Et donc, là, on a commencé la reprise dite classique en fait, ou la série mère.
Pour lequel il y a déjà trois albums parus, donc
c'est ça.
Alerte aux orphans, La Fâche cachée du Z et Dans les griffes de la vipère. Mon
meilleur titre, Dans les griffes de la vipère. Et j'ai quand même eu des retours de gens qui me regardent encore en disant mais. Dans les griffes.
ça rappelle le feuilletoniste du 19e siècle, Ponson du Terrail.
Oui, hein, qui faisait des beaux aussi. Hein.
Qui avait les mains froides comme celles d'un serpent.
Voilà.
Donc, mais alors j'ai l'impression que il y a une sorte de petit désir un peu sadique de malmener Spirou dans ces histoires-là, non? Puisque alors une fois Spirou devient carrément un monstre, une autre fois il est vendu à une multinationale et même il se prend un méga procès sur le dos, il est obligé de se cacher. On dirait que Spirou en prend plein la gueule à chaque fois.
En fait on voulait s'amuser, on voulait éviter que ce soit une espèce de truc dans du formol et voilà donc. Ce qui s'est passé, c'est que sur le 52, le 51 a été bien accueilli. Et le 52, on s'est dit, allez, on se lâche un peu. En gros, on nous avait dit, le 51 est bien, mais on sent que vous avez encore un peu un balai dans le cul. C'est l'expression qu'on a entendue. Hein. Donc on s'est dit, ok, on va se lâcher sur 52. Et on a fait muter le pauvre Spirou, muter au sens, il mute, vraiment. Il n'est pas muté, il mute. Il se transforme en Groom-Garou. J'étais hyper content de mon jeu de mots. Je trouve que ça sonnait bien. Et sur la Lune. Donc ça faisait un peu beaucoup à la fois, et en fait, on s'est un peu fait remettre à notre place par les gardiens du temple de la série qui nous ont dit, en gros, on ne fait pas n'importe quoi avec Spirou. Alors, les enfants ont bien aimé, mais les aficionados nous ont un petit peu regardé de haut en disant, vous êtes en train de partir dans une mauvaise direction. En plus, ils avaient peur, on a vraiment vu sur les forums que les gens pensaient qu'on allait transformer le héros en nouveau Wolverine. Quoi. Ces gens, il allait muter n'importe quand dans la série, ou Hulk, un truc entre Hulk et Wolverine. Alors que nous, c'était une idée, certes éventuellement mauvaise, mais pour un album, et après on revenait à la normale. Donc le 53 était un peu là pour les rassurer, et le procès dont tu parles était un peu un écho ironique, parce que le début du 53, c'est on accuse Spirou d'être un mauvais modèle pour la jeunesse, en disant genre votre dernier album est honteux, on y mute. Quelle honte, on y mute. J'aime bien la littération. Et il y a de la violence, et puis c'est honteux, et donc en fait il y a un procès sur le magazine Spirou, qui était une espèce de vision... sixième degré du procès qu'on nous avait fait, genre quel exemple pour la jeunesse. Quoi. Donc c'était une espèce de parodie de ce qu'on avait vécu. Et on a quand même on a poussé ça assez loin parce qu'on avait créé des faux courriers de lecteurs en colère dans le magazine qui nous menaçaient d'être traînés en justice. Et il y a pas mal de lecteurs qui ont vraiment cru qu'on allait avoir un procès à cause du 52 Et en fait, la réponse était en 53, c'était un faux procès. Voilà.
Ah bon ?
Non, non, et il y a même eu, on a reçu une vingtaine de courriers quand même, dont des gens qui voulaient faire l'amicale des soutiens à Spirou et du fait qu'on avait le droit d'aller un peu plus loin, etc. Parce qu'ils avaient vraiment cru qu'on était traînés devant un tribunal.
Alors du coup, il y a en même temps une grande dimension économique dans Spirou, aussi bien la page cassée du Z, parce que c'est du tourisme sur la Lune, donc ce sont des grands trusts qui vont proposer des vacances lunaires pour des milliardaires. Dans l'album suivant, c'est carrément le rachat du journal Spirou par des grands trusts encore qui comptent négocier l'image comme ils l'entendent, ce qui fait que Spirou n'est plus libre de ses mouvements. Donc c'est l'irruption du monde économique qui est finalement très adulte dans l'univers pour la jeunesse.
Alors là encore, j'ai regardé les chiffres de l'Argo Inch et j'ai vite compris. Non mais en fait, j'avais l'impression que si je parlais pas de ça, je parlais pas de la société contemporaine. C'est que... Et je pense que même un enfant peut voir que tout, si ce n'est tout, est régi par l'argent, en tout cas que l'argent a une place importante. Et le but du 53 est de dire qu'il y a, c'est pas l'argent en tant que tel qui est le mal, c'est la manière de l'utiliser. Et sans doute qu'il y avait un écho à ce qu'avaient vécu les éditions Dupuis en réalité, parce que pour la petite histoire et ceux qui ne connaîtraient pas ça, les éditions Dupuis avaient été revendues par Albert Frère, qui en était le détenteur, et a été rachetée par Média Participation, le groupe qui détient Dargaud Lombard, etc. Et ça a été vécu en interne par les gens de chez Dupuis comme quelque chose d'assez humiliant. Parce qu'en fait, et sans doute que moi j'avais gardé en tête ce ressenti de la part des gens qui font Dupuis, et puis le ressenti des auteurs qui se disaient à un moment donné on fait partie des meubles, on nous revend, c'est pas très agréable. Casterman a vécu la même chose récemment. Oui. Le premier réflexe des auteurs, c'est de se dire on fait pas partie des meubles, on ne nous revend pas avec le reste. Donc ce sentiment-là, je l'ai trouvé intéressant parce que le fait de l'avoir touché d'un tout petit peu, m'a amené sans doute à être un peu sensible à ces ouvriers qui, à un moment donné, se retrouvent dans une boîte dont on apprend qu'elle a été revendue à quelqu'un, qui décide ou pas de la refermer. Le fait qu'on soit chosifié est, je crois, quelque chose de contemporain. Et Spirou, dans le 53, est réduit à un héros qu'on achète avec son costume et ses accessoires. D'ailleurs, Spip, l'écureuil, n'apprécie pas du tout cette formulation de penser qu'il est un accessoire de Spirou. Et je trouvais ça intéressant d'en parler. Après, c'est vrai que les jeunes lecteurs sont peut-être moins rentrés dans le récit, parce que justement, plus économique. Et c'est là qu'on a un équilibre pas évident sur la série, c'est qu'il faut que ça plaise aux gardiens du temps, il faut que ça plaise aux enfants. Et je crois que le 54, donc à venir, sera peut-être un peu plus équilibré, puisqu'il sera question d'une quête archéologique très, très inspirée d'Indiana Jones, mais sur fond de pays en guerre, comme la Libye ou la Syrie actuellement. Donc ça me permet à la fois d'avoir un second degré de lecture pour les adultes, qui est plus politique, et un premier degré de lecture qui est Spirou va vivre des aventures dans un temple maudit avec des pièges partout. Je désespère pas que ça puisse faire le grand écart facial entre les enfants d'un côté et les adultes de l'autre.
Et avec peut-être le retour du marsupilami ?
Alors, le retour du marsupilami, effectivement, ben voilà un exemple de réalité économique. Il avait quitté les éditions Dupuis parce que Franquin avait revendu les droits du marsupilami et de Gaston à une boîte qui est devenue Marsup Productions. Et il s'avère que récemment, Média Participation a racheté Dupuis, a racheté le marsupilami et Gaston. Et que forcément, maintenant, nous, ça nous intéresse de voir si on pourrait pas réintégrer le marsupilami dans la série. Parce qu'il y a un truc, pour ceux qui connaissent la série, parce que sans ça, c'est vraiment la non-nouvelle par définition, c'est, comme je disais, le schmuck tout à l'heure, genre, vous savez que le schmuck revient dans la série Spock.
Waouh.
Eh ouais. Bon, alors, pour ceux qui aiment Spirou, le fait que le marsupilami revienne, c'est un moment important, parce que c'était la grande période de Franquin. Et que donc, on aimerait effectivement bien faire un...
Je suppose que là, on t'attendra au tournant parce qu'il s'agit de ne pas se rater. Là.
Ben voilà, maintenant on a l'habitude de toute façon. Donc ça serait le 55.
Le temps tourne vraiment, on n'a plus le temps. J'avais encore plein de questions à poser. Alors j'ai quatre sujets.
Je peux répondre tout de suite.
Je te laisse en choisir un.
D'accord.
Alors je voulais parler de la création, du fait que tu parles souvent de la création dans tes histoires, avec peut-être des lendemains sans nuages et les cinq compteurs de Bagdad. Je voulais parler de ton rapport à la religion. Et à la science, que l'on peut voir assez souvent dans le Marquis d'Anaon, par exemple, qui est quelqu'un qui analyse les superstitions de son époque, on est au XVIIIe siècle, et qui se définit quand même comme un scientifique, par l'ésotérisme aussi, où la magie qui est assez souvent présente, la nuit de l'Inca peut-être, ou cette psychopathe, et qui nous ramène d'ailleurs au thème du mal. Alors, tu choisis de ce que tu veux parler, parce qu'il y a qu'un seul sujet qui va être débattu.
Il y en a combien de temps?
Je crois qu'on est déjà en retard là.
Donc j'ai 15 secondes par sujet, je vais tous les traiter. Peut-être c'est le rapport au magique et au surnaturel qui est un peu lié à la poésie qui est un peu liée à la religion, à une aspiration sacrée. Plus que la religion, je dirais que c'est le mysticisme. Oui, c'est des choses qui m'intéressent. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que justement, c'est la même thématique que le rapport au réel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'aime bien m'adresser aux enfants et leur donner le moyen, les outils pour vivre avec la réalité dans ce qu'elle a de plus dur ? Parce que finalement, la réalité, c'est la chose la plus vivace et cruelle et forte qu'on puisse trouver. Rien n'est aussi fort que le réel, que ce qui nous arrive dans la gueule tout le temps. Donc comment on vit avec ça ? Comment on se débrouille avec ça ? Et pour moi, l'imaginaire a été une des portes de sortie d'une réalité qui m'oppressait quand j'étais enfant. Et c'est le point commun avec Paco Les Mains Rouges. Hein. La thématique carcérale m'intéresse énormément. J'ai l'impression qu'on peut avoir vécu une vie normale, une enfance classique, et avoir le sentiment d'avoir vécu en prison, sans l'avoir jamais vécu réellement. Parce que c'est un sentiment qu'on peut partager de plein de manières différentes. L'isolement, le rejet par les autres, la peur d'être jugé, c'est autant d'emprisonnement. Donc moi, le fait de dire à un moment donné que je donne un peu des billes, des outils à mes lecteurs, ou une forme de magie, c'est un sujet qu'on a développé tout à l'heure en mangeant, comme une espèce de manière de se décoller un tout petit peu du réel. En fait, l'expression que j'employais tout à l'heure, c'est de dire la réalité, c'est un radiateur parfois un peu trop chaud, et si on est plaqué contre, à certains moments de la vie, c'est insupportable. L'imaginaire et la littérature m'ont permis parfois d'avoir juste un peu de recul par rapport à ce côté brûlant de la réalité et m'ont permis de survivre. Donc le fait qu'il y ait un peu de magie, un peu de surnaturel, un peu de verticalité et donc de sens du sacré me semble être des choses nécessaires pour l'être humain, et sans doute que les nouveaux auteurs de notre génération, les auteurs de science-fiction, de fantastique, ou simplement les bons auteurs, sont les nouveaux mythologues, les créateurs de nouvelles mythologies, et je suis infiniment persuadé qu'on a besoin de nouvelles mythologies pour survivre. On a besoin de sens et on a besoin d'une forme d'aspiration au sacré. Ce qui n'est pas forcément une croyance et une religion, hein, je distingue les deux. On a besoin de croire à des choses. Et surtout, je refuse la dichotomie entre réalité et imagination. Pour moi, l'imaginaire est aussi réel, en fait, que cette table ici. Si à un moment donné, dans mon imaginaire, l'un d'entre vous est le futur Hitler qui va détruire le monde, et que j'en suis infiniment persuadé, j'irai le dégommer. Donc mon imaginaire va m'amener à faire quelque chose d'affreux, de réel. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de Looper, soit dit en passant. Ben, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si je crois quelque chose, ça a autant de force que cette table qui est censée être plus réelle que mon imaginaire. D'où l'intérêt pour moi de la mythologie. C'est que la mythologie, c'est un peu c'est une sorte de météorologie des âmes et de la psyché. C'est qu'à un moment donné, si tout le monde se met à croire à quelque chose, ça finit par avoir lieu. Et les grandes guerres sont le fruit de ça. Bref, c'est un grand débat.
Je vous recommande vraiment cette psychopathe qui pose la question sur le mal, étant donné que pour tuer Hitler, on imagine de recruter des cinglés complets, des psychopathes, parce que personne ne peut prévoir ce qu'ils pensent et que c'est le meilleur moyen d'approcher Hitler. Et ce que l'on verra là, c'est qu'Hitler est déjà mort et que nous sommes tous des Hitler en puissance, parce que chacun devient Hitler. Il y a une image qui est fantastique, où lorsque l'on rentre dans une pièce, il y a une vingtaine d'Hitler qui sont en train de boire le café et qui tournent la tête pour voir qui est-ce qui arrive.
Et surtout, ce qui est amusant quand j'ai écrit ça, c'est que celui qui ouvre, c'est un juif énervé. Et il a une mitrailleuse. C'est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire.
Il y a une dernière chose importante peut-être aussi à aborder, c'est Professeur Cyclope. Fabien Wellman fait quelque chose pour l'avenir, pour le numérique,
pour les auteurs, pour vos enfants. Abonnez-vous.
Et bon, de quoi s'agit-il ?
En très rapide, c'est une revue numérique de bande dessinée, coproduite par Arte, qu'on ne remerciera jamais assez, pour nous permettre d'essayer d'inventer un modèle économique qui marche, c'est là le défi, qui permette de payer les auteurs pour créer des bandes dessinées spécifiquement numériques. Donc je vous engage à aller chercher sur Internet, vous tapez Professeur Cyclope, arte.tv, les ados et adultes, hein, il y a des contenus qui ne sont pas pour les enfants, et vous verrez qu'il y a des narrations nouvelles qui sont en train d'apparaître. Notre but, c'est de créer un cercle vertueux où, si on vous donne envie de vous abonner, parce qu'il y a une version gratuite, vous pouvez y aller, mais il y a aussi une version pour abonner, je vous engage à le faire. Abonnez-vous, c'est 33€ l'année, c'est 1200 pages de BD, donc c'est quand même pas très cher. En faisant ça, vous nous permettez de bien payer des auteurs pour penser la narration numérique. Actuellement, un éditeur papier ne le fera pas ça, parce que l'éditeur papier veut un produit papier. Donc actuellement, on a des auteurs qui ont du talent, mais qui n'ont pas d'argent pour faire des produits numériques. Nous, on essaie de créer ça. Donc, Professeur Cyclope, allez le voir si vous êtes adulte. Je le dis parce que j'ai une rubrique érotique dedans, donc on est dans autre chose. Et c'est en train de bouger. Il y a des choses qui apparaissent là-dedans qui sont passionnantes. Pour ceux qui veulent voir un nouveau type de narration, qui connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle du turbo-média, appellation déposée Balak Malek. C'est Sacha Gurg qui fait ça dans la revue. Sa série s'appelle Le Sourire de Rose. Essayez d'aller voir ça sur un PC ou une tablette et vous comprendrez ce que sont les nouvelles narrations BD. Et on va en lancer une aussi avec Gwenaëlle de Bonneval au co-scénario et des auteurs de dessins. Pour le reste, on va lancer l'année prochaine, une grosse série qui s'appellera Le Dernier Atlas, qui va être dans ce mode de narration et dont j'espère reparler aux Utopiales parce que ça va être assez passionnant.
Ça bouscule un peu les habitudes de lecture quand même.
Oui, c'est ça, c'est exactement ce qui nous intéresse.
D'inventer de l'animation dans certaines images.
Il y a des images animées, il y a des modes de narration. En fait, on réinvente ce que peut être la narration en BD. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, on réinvente en allant chercher des très vieux modèles, comme le papyrus ou la tapisserie de Bayeux étaient en réalité des narrations séquentielles ou les vitraux. Ben, on se rend compte que ce qu'on appelle le scrolling vertical quand on lit un blog, ça n'est jamais qu'un papyrus. Qu'un scrolling horizontal, ça n'est jamais que la tapisserie de Bayeux, etc. Donc on reprend des modèles qui n'existaient plus, parce qu'en librairie, on ne peut pas vendre des papyrus. On les refait sur tablette, on réinvente, et surtout, il y a d'autres choses qui apparaissent, comme le turbo-média, que je vous engage à aller lire. Professeur Cyclope, 33€ l'année, enfin quand même, c'est donné, quoi. Foncez, c'est le moment. Pas cher.
Bon, ben, merci beaucoup, Fabien.
Je t'en prie. Merci à vous.